Bonjour, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale.
Bonjour.
Page 14. Et si c'était ma place? Page 15. Ma place est peut-être au perchoir. Page 86. Dernière phrase du 7e de vos 20 chapitres intitulé « Maman, tu ne peux pas lâcher ». Je suis heureuse dans mes fonctions. Vous parlez ici de la présidence de la Commission des lois que vous allez assumer de juin 17 à mai 22. J'ai le sentiment d'être utile. Je crois que je suis à ma place. Page 108. Pourtant, j'ai trouvé ma place en politique. J'ai été élu président de l'Assemblée nationale. J'arrête là. Page 216. Dernière phrase de votre ouvrage. Je me battrai à ma place. Alors, on comprend pourquoi vous avez choisi avec votre éditeur de titrer votre belle autobiographie « À ma place ». C'est une question qui vous préoccupe en permanence. Elle est le fil rouge de votre texte, qui est très, très plaisant à lire. Être à sa place est une exigence tellement importante pour vous que vous l'appliquez même à votre pays. Page 164, je vous cite, « Des combats que je porte, mais surtout que l'Assemblée dans notre pays se doit de faire rayonner partout. La France a le devoir d'être ouverte sur le monde et à l'avant-garde de chacun de ses sujets, on y reviendra, à sa place. » Ma première question, elle va peut-être vous paraître étrange. Comment sait-on que l'on est vraiment à sa place ?
C'est une sacrée question. C'est une sacrée première question. Déjà, bonjour à tous et vraiment merci à tous d'avoir pris de votre temps pour venir assister à cet entretien. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous. En fait, l'idée de « à ma place », et c'est pour ça que c'est mouvant finalement, la place qui est la sienne, c'est qu'on évolue dans la vie. On n'est pas égal quand on a 20 ans, quand on a 40 ans et aujourd'hui 54 ans. Et qu'il faut savoir aussi accepter cette évolution. Il faut essayer de bien se connaître. Et c'est ce que je crois que j'ai essayé de faire au fur et à mesure, de saisir aussi des opportunités qui peuvent se présenter dans la vie. Je n'étais pas programmée pour être députée, ni présidente de commission, puis présidente de l'Assemblée nationale. Et pourtant, c'est le parcours politique que j'ai construit. Et donc, l'idée, c'était plutôt de dire, en fait, qu'on construit un parcours à force d'audace, de ténacité, de persévérance et aussi d'opportunités que l'on saisit. Et il faut se laisser aussi surprendre par la vie. Et c'est ce que j'écris dans mon livre. Moi, j'avais été un peu programmée par mes parents pour être une battante, pour travailler, pour être très indépendante. Et j'ai été très surprise lorsque j'ai eu des enfants de me découvrir mère de famille très aimante. Et à tel point que j'ai eu envie d'arrêter de travailler pour m'occuper de mes enfants. Non, mais c'était pour vous dire que j'ai toujours essayé de construire ma vie en étant capable d'évoluer sur les autres, mais aussi sur moi-même.
Alors, on va parcourir votre histoire. Elle est parfois étonnante, toujours empreinte de sincérité, parce que vous vous livrez avec un naturel sans fard. Puis j'ajouterai que votre récit est souvent émouvant parce qu'il dit... par ce qu'il dit de vous, de votre famille, de vos racines, mais parce qu'il dit aussi de notre histoire collective, des 100 dernières années de la France, des personnes qui l'ont peuplée ou qui se sont battues pour qu'elle se libère et qui l'ont reconstruite. Et puis, je veux dire qu'ils l'ont fait marcher, si vous me passez ce clin d'œil. Alors, première évocation, Kalman. Votre grand-père et Rose, son épouse, votre grand-mère. Lorsque vous allez prêter serment comme avocate au barreau de Paris, c'est le 21 janvier, 1996, alors, sacrée date le 21 janvier, parce que vous le savez certainement, c'est le jour où Louis XVI a été guillotiné, et c'est le jour où Lénine est mort. Hein, donc vous avez prêté serment un 21 janvier, et c'est très touchant, vous dites, page 89, « J'ai cousu à l'intérieur de votre robe noire la griffe de mon grand-père tailleur pour sentir sa présence à mes côtés en ce moment d'exception. » Et sur l'étiquette, il y a écrit « Kalman Braun » à la coupe parfaite. Alors, Kalman Braun, c'est un juif polonais qui est né en 1905 à Łódź, en Pologne prussienne. Łódź, c'est la ville de La Terre promise, qui est le grand roman de Władysław Reymont, qui va être porté à l'écran d'ailleurs par Wajda en 1974. Et à 9 ans, dites-vous, Kalman monte dans un train pour Vienne. Et en 1930, il est devenu un jeune et très bon tailleur. Il rejoint un de ses frères installé à Nancy. En 1933, à la piscine, il entend parler allemand. C'est une jeune petite femme, qui a 15 ans. 13 ans de différence. Et c'est le coup de foudre. Ils se marient en 36 en plein Front populaire. Et Rose a tout juste 18 ans. Alors, racontez-nous ce qu'ils vont faire rapidement, parce que c'est dans votre livre, c'est très bien. Le récit est passionnant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, au point que votre papa Alfred, il naît par une nuit glaciale, dites-vous, en décembre 43, dans le petit village d'Aize. C'est pas très loin de Cluse. Ouais. Je sais pas comment on dit.
Aïs,
je prononce mieux vous que les villages de Haute-Savoie. Parce qu'il va combattre dans le maquis des Glières, votre grand-père, Kalman. Racontez-nous tout ça, parce que c'est une histoire fascinante, quoi.
Mais en fait, c'est l'histoire de la France, et c'est pour ça que j'ai voulu le raconter. Vous avez raison de dire que c'est une histoire, en fait, qui ressemble à tant d'autres. Et c'est très émouvant, d'ailleurs, dans les séances de dédicace. Il y a tellement de gens qui viennent me voir en me disant « Mais mon grand-père aussi, venu d'ailleurs, ma grand-mère. » En fait, la France s'est construite avec ces populations migrantes qui sont venues au fil des années pour construire notre pays, pour y travailler, parce que, aussi, c'était le pays des droits de l'homme. Et ces valeurs et l'universalisme de la France étaient attractifs. Et donc, mon grand-père arrive en France dans les années 30. Donc c'est un migrant économique à cette époque. Ma grand-mère, elle, fuit l'Allemagne nazie. C'est une jeune juive allemande qui grandit à Munich et qui est passionnée de natation. Elle est même championne de natation de Munich. Et un jour, en fait, en 1933, on lui interdit l'accès à la piscine parce qu'elle est juive. Et la piscine devient interdite aux juifs. Et ses parents comprennent que... les temps sont mauvais et qu'ils vont être encore plus mauvais. Et donc, ils quittent l'Allemagne avec une valise à la main, avec leurs trois filles, dont ma grand-mère, qui était la plus jeune des enfants. Et figurez-vous qu'ils montent dans un train qui arrive en France et qui s'arrête d'abord à Strasbourg. Et à Strasbourg, il y a des autorités françaises qui ne souhaitent pas que les Juifs allemands s'installent aussi près de la frontière. Et ils leur demandent de poursuivre leur chemin. Et leur chemin, donc, va s'arrêter à Nancy. Et forcément, ma grand-mère, elle rejoint ses premiers amours, elle va à la piscine. Et c'est là qu'elle rencontre mon grand-père, qui a effectivement 13 ans de plus qu'elle. Ils s'aiment, ils se marient 3 ans plus tard quand elle atteint 18 ans. Et ils vivent heureux de façon très simple. Mon grand-père était tailleur, il a été tailleur toute sa vie. Il n'y avait jamais eu de richesse, de fortune, et il est mort avec rien. Mais ce n'était pas important. Et quand la guerre est déclarée, eh bien, il veut combattre. Il veut combattre pour défendre la France. Il veut combattre contre cette idéologie nazie. Et donc, il va s'inscrire. Et à l'époque, eh bien, c'est la Légion étrangère, puisqu'il est étranger. Et il s'inscrit et rentre dans la Légion étrangère.
Il a 34 ans.
Il va se faire former dans des camps. Et puis, il combat dans la Marne. Et dès que l'armistice intervient, eh bien, il rejoint ma grand-mère. Ils sont juifs, alors ils se cachent et ils ont un périple français. Ils passent par Lorient, Clermont-Ferrand, Marseille, et puis ils atterrissent en Haute-Savoie. Et en Haute-Savoie, début 43, mon grand-père rentre dans le maquis et il devient résistant. Il participera plus tard au deuxième parachutage sur le plateau des Glières. Il fera plusieurs prisonniers allemands et deviendra médaillé de la résistance parce que il a donc servi la France. Et mes grands-parents, qui étaient très amoureux, ma grand-mère font le projet d'avoir un enfant. Ma grand-mère est enceinte et elle accouche un soir glacial, effectivement, de décembre. Mon père est né le 30 décembre 1943, ils sont cachés dans une ferme et mon papa naît en plein hiver. Chose complètement folle qu'il raconte et qu'il nous racontait, ils l'ont fait circoncire alors qu'ils sont cachés, qu'ils sont juifs, qu'ils sont poursuivis, qu'ils sont... Et on se dit, mais en fait, c'est fou, mais je ne sais pas, il y avait peut-être ce sentiment d'appartenance qui était plus fort que tout. Et puis après la guerre, ils retournent à Nancy et ils reprennent leur vie. Et ils se font naturaliser 2 ans plus tard, donc sur le décret de naturalisation, qui évidemment j'ai, il y a le nom de mon père, le nom de mon grand-père et le nom de ma grand-mère. Et après, mes grands-parents vont vivre toute leur vie à Nancy. Simplement, mon grand-père était tailleur, ma grand-mère l'aidait au magasin. Ils ont adhéré aux valeurs de la République française, ils n'ont jamais manqué une élection, et ils nous ont élevés de façon très simple, très modeste, mais en ayant le sens des choses et le sens de l'essentiel. Et je crois que c'est pour ça aussi que je voulais raconter leur parcours. D'une part, pour dire que la France était un pays qui accueillait et qui accueillait ceux qui étaient attachés aux valeurs de la République. Et donc, il ne faut pas croire que la France est un pays qui doit se recroqueviller, se refermer sur lui-même. En tout cas, ce n'est pas la France que moi, j'ai vécue et que j'ai dans ma peau. Et puis, c'était aussi pour dire qu'on peut être aujourd'hui quatrième personnage de l'État. On peut être président de l'Assemblée nationale en ayant un grand-père émigré polonais, en ayant une grand-mère émigrée allemande, en ayant une maman, parce que j'en parle aussi,
on en parlera,
a été élevée à la DAS. Eh bien, la République française, c'est ça. C'est une République qui permet aussi des parcours, qui protège, qui accueille ses enfants et qui leur donne les chances. Alors, je ne suis pas naïve, ça n'est pas facile de construire son parcours. Peut-être aujourd'hui est-ce plus difficile qu'hier, mais en tout cas, c'est possible. Et aujourd'hui, les politiques que nous sommes ne sont pas des héritiers, ne sont pas des privilégiés. Et c'est la raison pour laquelle je voulais décrire ce parcours-là, parce qu'il dit beaucoup de ce qu'est notre pays, je crois.
Votre maman donne lieu à des pages qui sont absolument saisissantes, parce que vous dites les choses. Hein, votre maman est née à Paris, mais très vite, elle se retrouve dans un orphelinat à Alger. Son père est mort quand elle avait 2 ans. Et vous n'allez pas connaître votre grand-mère maternelle auprès de qui votre maman va passer, enfin, j'ai dit auprès de qui, par intermittence, une enfance très malheureuse, ballottée de lieu en lieu et de violence en violence aussi. C'est terrible. Et vous en avez tiré une leçon de vie qui, je pense, dit beaucoup de vous aujourd'hui. Là encore, je me permets de vous citer, Madame la Présidente. J'ai souvent eu envie de connaître cette grand-mère. Mais il y a des plaies chez les gens qu'on aime, qu'il vaut mieux tenir à distance. Ma mère m'a transmis sa résilience, sa volonté farouche de ne jamais subir, de ne pas laisser les autres tracer votre destin. Il suffisait que je me plaigne pour qu'elle me cloue le bec. Contrairement à elle, je n'ai jamais eu ni froid ni faim. Et puis vous terminez ainsi, elle m'a appris à ne jamais me laisser submerger, à toujours prendre le dessus. Je lui dois ma force. Ma mère m'a appris à ne jamais courber les chines. On disait jadis, c'est comme ça qu'on est une forte femme. C'est une expression qu'on employait jadis. Alors, vous avez eu 5 enfants, dont 2 filles, si je ne me suis pas perdu. Hein, non, voilà. Et page 33, c'est très touchant. Vous évoquez un peu la manière du tableau de Klimt, vous savez, les 3 âges de la femme. Ouais. Vous évoquez 3 générations. C'est au moment où vous prononcez votre discours d'installation à la présidence, au fauteuil, comme on dit, au perchoir, hein, le 28 juin 2022. Dans les tribunes, il y a votre maman et vos 2 filles, et puis vous qui êtes dans une forme de triangulation au perchoir. Et vous dites alors 3 générations qui incarnent tous les âges d'une femme et la ténacité pour les relier. Alors, vous avez été la première femme à présider le Congrès, c'est pas rien, Congrès historique, on y reviendra, à Versailles. Première femme avant cela, donc, à présider l'Assemblée nationale. Et quand je lis votre commentaire en conclusion de votre élection au perchoir, je lis « Je viens d'ouvrir une porte, à moi de veiller à ce qu'elle ne se referme pas ». Qu'est-ce que vous voulez dire, là ?
Je veux dire que pendant trop longtemps, surtout en politique, les femmes qui réussissaient à obtenir des postes et à exercer des fonctions importantes, était tellement heureuse d'être la femme dans la pièce qu'elle fermait vite la porte derrière elle pour être sûre de rester la seule femme et qu'on ne vienne pas les remplacer.
Comme l'immigré qui vient de rentrer en France.
Un peu. Et donc, il faut changer ça. Il faut au contraire, et c'est notre responsabilité, lorsque l'on réussit à accéder à un certain nombre de fonctions importantes, mais il faut qu'on fasse de la place aux femmes. Et c'est la raison, une des raisons pour laquelle je me suis battue ces dernières semaines pour que l'on vote à l'Assemblée nationale une loi sur la parité aux élections locales dès le premier habitant, pour faire de la place aux femmes en politique. Et c'est extrêmement important. Et si je n'avais pas été au perchoir lors du vote de cette loi, je crois qu'elle n'aurait pas été votée, parce que les débats ont été extrêmement compliqué et extrêmement tendu. Mmh. Et je crois que c'est mon devoir. Il faut s'insérer dans une lignée. Moi, je ne suis pas, une solitaire. Je ne tire aucune gloire à être la femme dans la pièce, la femme autour d'une table, etc. Et j'ai même envie de vous dire que ça me gêne profondément. Lorsque j'assiste à des réunions et que je suis la seule femme autour de la table avec 15 hommes, je suis gênée, je ne suis pas à l'aise. Vous voyez, je n'en tire pas une gloire. Je pourrais le faire en me disant je suis la femme. Mais non, mm-hmm. ça ne m'intéresse pas. Et j'ai vraiment envie et besoin qu'on ouvre ce monde à la réelle égalité. Et donc, la réelle égalité, c'est d'avoir... Alors, je ne suis pas une ayatollah de la parité, mais simplement presque autant de femmes que d'hommes autour d'une table, dans une entreprise, dans les lieux de pouvoir, mais aussi dans les lieux associatifs, les fédérations sportives, etc. On voit qu'on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et je crois modestement que j'ai ma part à prendre pour faire en sorte que nous progressions en la matière. Et donc, j'essaye d'assumer cette part.
Alors, il y a un monde qui... pas forcément quand vous y êtes rentré, je pense, du monde de la justice, quand vous avez été avocate, mais qui désormais, en tous les cas, quand on regarde les promotions de l'École nationale de magistrature, bon, c'est les magistrats, c'est pas forcément les avocats, hein. Mais c'est un monde qui s'est très féminisé, tout simplement parce que à l'ONM, les jeunes femmes candidates sont meilleures que les garçons, hein, comme ça qu'elles réussissent les concours.
Mais faites attention, c'est très trompeur, parce que ça s'est féminisé, effectivement, il y a davantage de femmes à l'ONM, mais quand on monte oui, sur la hiérarchie judiciaire, il n'y a pas autant de femmes que d'hommes. Et donc, pour les postes de procureurs généraux, de présidents de cour d'appel, etc., c'est encore extrêmement genré et inégalitaire.
Le fameux plafond de verre, comme on dit. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'on arrive à votre premier métier, où vous avez été avocate pendant 7 ans. Alors, j'évoquais tout à l'heure la cérémonie de prestation de serment. Vous avez, quand on lit comment vous avez fait littéralement le siège oui. du grand pénaliste Hervé Temim, c'est à mourir de rire. Hein, vous dites même c'est un cas de harcèlement. Hein, voilà.
Un peu, bon. Oui.
Alors, Hervé Temim, homme de très grand talent, hein, trop tôt disparu, hein, hélas. Pourquoi vous avez choisi le métier d'avocat?
Ah, parce que...
Pas Hervé Temim, mais métier d'avocat. Crois...
Parce que je voulais... j'avais été très, très jeune, attirée par un livre que j'avais lu sur l'affaire Ranucci.
Sur interdiction de vos parents.
Sur interdiction de mes parents. J'ai toujours été un peu rebelle. Et en fait, ce livre m'avait passionnée. Vous connaissez tous cette affaire autour du pullover rouge et ce magnifique livre de Gilles Perrault qui démontre tout le dossier pour, en tout cas, s'interroger sur la culpabilité de Christian Ranucci. Et j'avais trouvé ça absolument passionnant et fascinant. Et donc, je crois que c'est là qu'est née mon envie d'être avocate. Et puis, dans ma famille, il y a une espèce de tradition, c'était ma grand-mère qui en fait, le fait d'avoir une fonction qui comporte un habit, un uniforme, c'est le signe de la notabilité. En fait, vous avez fait des études et vous avez un métier qui est un métier voilà de notable. Et donc, c'est vrai qu'il y avait une fascination aussi pour ce type de profession. Donc, je pense que ça a joué aussi. Et puis, c'est une profession où vous êtes indépendant, vous êtes libre, vous êtes la voix. Vous êtes la voix de ceux qui n'en ont pas, de ceux qui se retrouvent souvent acculés. Et donc, tout cela a fait que, depuis d'aussi loin que je me souvienne, j'ai voulu être avocate. Et donc, je n'ai jamais démordu de cette idée. Et lorsque j'ai passé mon bac, j'ai foncé à la fac et je suis rentrée en fac de droit pour devenir avocate.
Et puis, il se trouve, vous le dites, 25 ans plus tard, vous vous retrouvez présidente de la commission des lois. Mmh. Et là, il y a un passage encore qui est très fort parce que quand vous avez pris la présidence, première femme présidente de la commission
Deuxième.
Des lois...
Non,
deuxième. Ah, c'était Catherine Tasca, pardon.
Exactement.
Ah, excusez-moi, vous l'avez dit de votre livre. Oui, mais vous dites d'ailleurs, mais elle avait été ministre avant.
Oui, elle avait un bagage politique avec que je n'avais pas.
Elle avait un background, c'est pour ça que dans mon esprit, vous étiez vraiment là, d'une certaine façon, c'est elle qui arrive et qui occupe cette place. On reviendra sur les circonstances. Mais j'ai noté que vous avez lancer cette idée, alors j'appelle ça des visites surprises et simultanées, avec les parlementaires, les commissaires de loi, pour aller visiter les établissements pénitentiaires. Donc c'est un droit qui est ouvert aux députés, mais vous décidez de convenir que ça sera en même temps dans leurs différentes circonscriptions. Et là, vous avez une phrase qui est tout à fait particulière, page 92, vous dites « Pendant cette année, je n'ai connu des prisons que les parloirs des avocats, la partie émergée d'un iceberg bien plus étendu ». Qu'est-ce que ça vous a appris, par exemple, cette manière très concrète de gérer la présidence de la commission des lois, d'aller dans les établissements pénitentiaires?
C'était la première fois qu'on le faisait, et c'était très intéressant parce que l'idée, c'était de dépolitiser le sujet des prisons.
D'accord.
C'était de se dire, en fait, en allant tous sur le terrain, en discutant avec les surveillants, en se rendant sur des lieux de détention très variables dans l'Hexagone et aussi en Outre-mer, on va pouvoir objectiver un certain nombre de choses, et donc on va travailler ensemble sur un sujet qui d'habitude est hyper clivant. Et ça a réussi, puisqu'on a réussi à faire un rapport, des groupes de travail complètement transpartisans dès 2017 sur la question pénitentiaire. Et je pense que c'était, vous voyez, la question terrain et le transpartisan, c'est vraiment dans ma façon de faire dès l'origine. Ça n'est pas né avec la présidence de la commission des lois. Après, j'ai fait carrément des immersions en prison. J'ai passé 24 heures, 48 heures, j'ai fait les rondes de nuit, etc. Je voulais vraiment comprendre comment tout cela fonctionnait et comment l'améliorer. Et donc, j'avais proposé un certain nombre d'idées assez structurantes sur cette question, parce que l'objectif, c'est de mieux vous protéger. Et donc, il faut, lorsqu'on détient quelqu'un, il faut assurer la sécurité, évidemment, et puis il faut assurer la réinsertion pour faire en sorte qu'il n'y ait le moins possible de récidive. Donc, les conditions de détention sont essentielles pour protéger la société. Et ça, je crois toujours que ce sujet-là doit être appréhendé. Aujourd'hui, Gérald Darmanin le fait très bien, avec, en reprenant justement des idées que je poussais, de centres pénitentiaires qui soient très différenciés selon le degré de dangerosité, la durée des peines, l'âge des détenus, les parcours pénaux, et donc de centres à sécurité les plus allégés possibles, qu'on appelle prisons ouvertes, qui existent notamment dans l'ensemble du nord de l'Europe, jusqu'aux établissements les plus sécurisés. C'est ce qu'il est en train de faire sur, par exemple, le narcotrafic, avec des établissements que l'on avait dédiés plutôt à la radicalisation et qui vont être réorientés. Donc c'est un sujet, les prisons, qui est, je crois, très important et qui dit beaucoup de ce qu'est une société. C'est pas pour rien que d'éminentes figures de la société française se sont intéressés aux prisons. On pense à Robert Badinter, évidemment, qui s'est occupé de la peine de mort, mais pas que, et il a fait la révolution autour des prisons. Et quelqu'un comme Simone Veil a fait sa première partie de carrière en tant que magistrate autour des prisons. Et elle raconte dans son livre Une vie qu'elle s'arrêtait sur le chemin des vacances pour visiter des établissements pénitentiaires et que son mari et les enfants l'attendaient sur le parking de la prison pendant qu'elle visitait des établissements. Et c'est assez, je trouve, émouvant
de d'entendre cela. Devenus d'éminents avocats, vous voyez.
Voilà, et tout à fait. Donc et ça ne les a pas traumatisés.
Alors, on va continuer dans votre trajectoire personnelle. On y reviendra, mais donc vous, au bout de 7 ans, vous décidez de suivre votre mari, de mettre entre parenthèses votre carrière d'avocat. Vous avez eu, vous dites, 3 enfants en 3 ans et demi, si je me souviens bien. Oui. Et puis vous partez en Asie parce que Vianney Pivet, votre mari, vous avez rencontré jeune, hein,
oui,
et dit on a fait les 400 cours ensemble, et cadre supérieur chez L'Oréal. Donc c'est un expat, comme on dit, hein. Et donc je crois que deux de vos enfants, les deux plus jeunes, vont naître au Japon.
Oui.
Et quand vous rentrez, alors là, c'est tout à fait intéressant, vous décidez de vous investir dans la vie associative, et c'est les Restos du Cœur. Alors, je regardais quand même un peu, vous n'aviez que 15 ans, vous n'aviez même pas 15 ans quand Coluche a lancé son appel à Europe 1, hein, en septembre 85, mais il se trouve que vous avez une idole, c'est Jean-Jacques Goldman. Alors,
oui.
Je vous ferai pas chanter tout à l'heure chanson de Goldman, hein, pour échapper à cela, mais comme Goldman enregistre le tube en décembre 85 qui va populariser ce qui va donner après les Enfoirés, hein,
ouais.
Voilà. Vous avez, on va dire, un tropisme Resto du Cœur. Et alors, là, c'est passionnant. Vous commencez, on va dire, à la base. Après, vous ouvrez le centre d'accueil des familles de Sartrouville. Puis après, vous allez devenir délégué, c'est peut-être pas le terme exact, mais pour l'accès au droit sur l'ensemble de, du département des Yvelines et même national, mm-hmm. des Restos du Cœur. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce, l'engagement associatif comme ça?
Je pense, je ne sais pas s'il y a beaucoup, mais j'imagine que ouais. oui, dans la salle d'engagés associatifs. En fait, l'associatif, moi, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. On ne sait jamais. Alors, quand on y rentre, on se dit, on va donner une heure, deux heures, un demi-après-midi, un après-midi, une journée, deux jours, trois jours, machin. Ça termine, on est à plein temps engagé. Et c'est passionnant parce que c'est des énergies qui sont complètement désintéressées. Des gens qui ont envie d'aider, qui ont envie d'être utiles, qui se fédèrent pour un projet commun, pour une cause qui est plus grande qu'eux et qui se disent qu'ils vont agir ensemble. Et je trouve que c'est très beau. C'est un engagement assez pur et c'est très concret. En fait, quand vous êtes engagé au Resto du Cœur ou dans d'autres associations, mais surtout des associations où vous êtes tourné vers les autres, en fait, vous voyez très concrètement et très immédiatement le résultat de votre travail, le résultat de votre engagement. Et c'est quelque chose qui est essentiellement humain. Moi, ça m'a appris à aimer les gens plus que tout, en fait. Que ce soit les bénévoles qui sont incroyables parce que c'est souvent des personnes qui sont retraitées. Et moi, je vois encore, je vais tous les ans, je continue un peu à donner un coup de main de temps en temps au Restaurant du Cœur de Sartrouville. Et vous avez des gens qui ont 70 ans, 75 ans, 80 ans, qui sont capables de se lever le lundi, le jeudi, pour aller à la ramasse, faire les caisses de supermarché à 7h du matin, sous la pluie. Mais ils y vont, alors qu'en tant que retraités, ils pourraient rester confortablement chez eux. Et personne ne leur en voudrait. Et pourtant, ils se lèvent, ils y vont et ils aident leurs prochains. Ben, je trouve que c'est y a rien de plus beau. Et donc, j'ai eu des années formidables au Resto du Cœur. Et à chaque fois que je retourne, les bénévoles... Et c'est une grande fierté. J'ai créé le centre de Sartrouville. J'ai embauché, entre guillemets, presque 100 bénévoles. Et quand je vais faire la collecte tous les ans des Restos du Cœur, eh bien, je retrouve beaucoup de bénévoles que j'avais embauché. Et donc ça, c'est génial, parce que c'est des bénévoles qui sont restés, qui sont fidèles à la cause, qui sont fidèles au centre. Et en fait, on se retrouve comme avant, comme si j'étais pas présidente de l'Assemblée nationale, et je fais la collecte, voilà, comme tout le monde. Et c'est des beaux moments, et c'est des beaux moments aussi pour eux, parce qu'ils voient que bah, on est toujours porté par le même engagement. Donc ça apporte beaucoup, l'engagement associatif. Et je me suis toujours dit que probablement je retournerai dans l'engagement associatif quand j'aurai fini... la politique.
Ça, on sait pas quand.
Je sais pas.
Et dans votre livre, on alterne entre le récit et puis tout d'un coup, il y a un moment plus grave. À propos de justement de votre engagement au resto, vous dites j'ai été blessé quand Emmanuel Macron a parlé de ceux qui ne sont rien, par opposition à ceux qui réussissent. Mes grands-parents n'avaient rien. Nous ne sommes pas une famille d'héritiers. Ils ont travaillé, ils ont réussi leur vie. Même s'ils n'étaient pas riches, ils n'ont jamais été rien. Les bénéficiaires que j'accueille à Sartrouville ne sont pas rien. Personne n'est rien. C'est un désaveu cinglant des propos d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, vous allez apprendre à le connaître au fil du temps. Ma surprise, c'est que vous ne l'aviez jamais rencontré en tête-à-tête avant juin 2022. Moi, j'étais, j'avoue, un peu surpris. Bon, enfin, vous
assez classique, en fait, oui. Parce que je faisais pas partie du premier cercle d'Emmanuel Macron. Donc, je le rencontre avec d'autres collègues lorsqu'il reçoit des parlementaires à l'Élysée, etc. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu d'échange en tête-à-tête avec lui. Et j'ai ces échanges pour la première fois lorsque je deviens présidente de l'Assemblée nationale. Et depuis, on a des échanges réguliers en tête-à-tête, toujours en tête-à-tête.
Alors, je ne vais pas vous demander de faire sa psychanalyse en direct. Mais
pour... J'en serais bien incapable.
Oui, et puis vous pourriez dire joker. Mais à votre avis, enfin, est-ce que vous avez une explication? Pourquoi tient-il de tels propos?
Je ne sais pas. Je crois qu'il les a regrettés, ces propos, parce qu'il a compris qu'ils avaient blessé. Il a expliqué quelle avait été sa pensée et que ce n'était pas celle que nous avions comprise. Faut faire attention en fait, et je pense qu'il l'a compris aux mots qu'on utilise parce que voilà, c'est difficile. Il faut bien choisir
une
les mots. Faut bien
que,
choisir.
C'est une préoccupation que vous avez constamment maintenant.
Mais oui, et puis en fait, il faut comprendre que ce qui est important, c'est la perception que les gens ont. C'est pas voilà, il y a nous, on peut avoir nos convictions, on peut dire les choses et se dire voilà, moi j'ai la parole juste, etc. Mais si elle n'est pas comprise, si elle n'est pas bien perçue, c'est pas de la faute des gens qui la perçoivent mal. C'est vous qui vous êtes mal exprimé. Ça me paraît être une évidence. Et donc je crois, et faut pas hésiter à dire parfois. Et je le fais moi. Je me trompe. C'est pas ce que j'ai pas utilisé les bons mots. Je n'ai pas eu la bonne attitude à telle ou telle raison. C'est pas grave. C'est pas grave de se tromper. Il faut volontiers le reconnaître parce que il faut pas s'arc-bouter, je crois, sur des positions ou des propos. Et puis on n'est pas surhumain, on n'est pas infaillible. Et si les gens perçoivent mal quelque chose, et ben en fait c'est probablement parce que vous avez mal émis quelque chose. Donc c'est important d'en avoir conscience.
Dans votre livre, il y a aussi une réflexion sur ce que c'est que ce qu'a pu devenir un projet politique. Vous disiez à l'instant, je n'étais pas dans le premier cercle, mais vous avez été, comme on dit, une première marcheuse, puisque ouais. C'est d'ailleurs assez intéressant. Vous déposez votre candidature à la candidature à la députation sur une plateforme internet. Hein,
Alors j'avais milité quand même pendant toute la campagne présidentielle.
À partir de 2016.
Quand même dans le mouvement.
À partir de
marche.
2016, c'est ça. Vous, voilà. Parce que vous dites, Emmanuel Macron me semble neuf, dynamique, convaincu, voilà. Il me parle. Je suis attiré par ce refus du dogmatisme et cette nouvelle façon de faire de la politique.
Exactement.
Vous confessez que vous avez eu votre carte au Parti Socialiste, je crois, à la section socialiste du Japon.
Oui, une année.
Elle est très connue, la section socialiste.
Bah oui, elle est connue depuis que j'y ai adhéré, en fait.
Exactement. et vous dites, tous nous avions le sentiment d'être enfin acteurs du changement, d'être écoutés, de voir nos idées prises en compte. Et puis, dans la même page, le constat, il devient lucide. En février 24...
Non, mais ça, c'était très lucide aussi. Hein.
Oui, pardon. En tous les cas, il est actuel, le constat. En février 24, 77% des personnes interrogées, rappelez-vous, répondaient aux enquêtes du Cevipof, dans la fameuse enquête annuelle qui dure depuis 12 ans, qu'elles n'avaient plutôt pas ou pas du tout confiance dans les partis politiques. De ce point de vue-là, Paris perdu, donc... Oui. Alors, c'est quoi l'issue, là ?
Paris perdu, et c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que notre démocratie, et on le voit, c'est fragile, une démocratie. Et on voit que certaines démocraties vacillent. On le voit actuellement aux États-Unis, mais on le voit aussi dans des pays plus proches de nous, en Europe. Et on voit que chez nous, on a des attaques sur l'état de droit, etc. Donc il faut faire très attention à notre démocratie. C'est un bien précieux, la République, et nous l'avons en partage. Et pour qu'elle vive, cette République, pour que notre démocratie puisse continuer à exister, elle a besoin d'hommes et de femmes politiques. Elle a besoin d'hommes et de femmes politiques qui s'engagent, qui aient envie de faire de la politique et qui puissent le faire. Et en fait, avec cette perception que les Français ont aujourd'hui de la politique, c'est l'absence de confiance, mais c'est plus de 50% des Français pensent que les hommes et les femmes politiques sont corrompus, ne pensent qu'à qu'aux ors de la République, qu'à profiter du système, etc. Le résultat, c'est quoi ? C'est qu'en fait, il va y avoir de moins en moins de personnes qui auront envie de s'engager en politique. Parce qu'en fait, c'est pas un long fleuve tranquille, la vie politique. Or, si vous souhaitez continuer à vivre dans un pays qui vous ressemble, qui a des valeurs auxquelles nous sommes attachés, mais si vous voulez continuer aussi à vivre dans une ville qui a des espaces qui sont aménagés, des écoles qui fonctionnent, etc., ben vous avez besoin de politique. Et donc, il faut y prendre garde. Et je crois que c'est aussi un des objectifs de mon livre, c'est de vous dire, mais en fait, les politiques ne sont pas ce que vous croyez. Nous ne sommes pas des héritiers, nous ne sommes pas des ambitieux, nous ne sommes pas des profiteurs. Nous sommes des personnes, des hommes et des femmes, qui sommes des citoyens et nous avons décidé de nous engager pour servir le bien commun. C'est très noble, la politique. Il n'y a rien de plus noble que la politique. Et j'espère aussi, par mon parcours, par mon récit, pouvoir un petit peu redonner confiance dans la politique. Mais en tout cas, nous avons besoin d'hommes et femmes politiques qui défendent des valeurs et qui défendent notre pays.
Et selon la fameuse formule, si tu t'intéresses pas à la politique, c'est la politique qui s'intéresse à toi de toute façon. Alors, le récit que vous faites de votre première campagne législative dans la 5e circonscription des Yvelines et manque pas de sel, en particulier le portrait que vous faites de votre adversaire, enfin celui que vous allez battre, hein, qui est le député maire sortant de Maison Lafitte, Jacques Myard. Bon, vous dites, je suis peut-être d'un autre monde, mais il est clairement d'un autre temps, parce que c'est un gros macho, pour dire les choses clairement.
Ouais, hein, c'est voilà, un gros bon. Macho, il a
Mais il n'y a pas que lui qui est macho, parce que dans votre livre, même si vous dites « je ne suis pas une féministe énervée », Alexis Colère, qui exige de vous que vous ne vous présentiez pas au perchoir en juin 22, avec des arguments dont vous dites qu'ils sont...
Lunaire,
voilà.
Je sais pas si j'utilise.
Non, je crois pas que vous employez le mot dans le livre, pardon. Hein. Ou Stéphane Séjourné, qui avec lequel vous n'avez pas vraiment d'atome crochu, on le comprend, en particulier page 177. Bon, ils appartiennent à quel temps, selon vous, ceux-là?
Alors, vous voyez, dans le livre, je fais pas de commentaires et je ne qualifie pas. Ce qui s'est passé, je le raconte tout simplement et je laisse chacun en tirer des conclusions. Ce que je voulais démontrer, c'était que les places, elles se gagnent, que c'est un combat, que ça n'arrive pas tout seul et que vous avez des obstacles qui se dressent devant vous et qu'en politique, bien souvent, les obstacles viennent d'abord de votre propre camp. C'est malheureux, nous devions faire différemment. Malheureusement, nous n'avons pas complètement fait différemment sur ce plan-là.
Quand vous avez été présidente de la commission des lois, vous avez fait tout un travail de pédagogie sur l'état de droit. Alors, je voudrais que vous nous racontiez une scène qui est tout à fait remarquable. C'est quand vous êtes avec des écoliers et vous leur faites une pédagogie de qu'est-ce que c'est que l'état de droit. Alors, je vous laisse raconter ça parce que c'est savoureux.
Non, mais c'est ce que je fais tout le temps d'ailleurs. C'est en fait quand j'interviens beaucoup devant les jeunes. Alors c'est soit des classes de CM1, CM2, soit des classes de voilà au collège jusqu'à la troisième, et parfois des lycéens, et parfois dans les facultés. Je pense qu'il faut vraiment, en tant que femme politique, que j'aille parler à la jeunesse pour faire la pédagogie de nos institutions, mais aussi pour susciter de l'engagement, parce que justement, vous l'aurez compris, je crois en l'engagement et je pense que mon rôle, c'est d'aller chercher les gens pour qu'ils s'engagent et les inciter, les encourager à le faire. Et donc, j'explique aux enfants, je leur fais imaginer une proposition de loi très basique sur... Alors, ça peut être n'importe quoi, mais je prends souvent, avec les plus petits, l'exemple de l'école, en leur disant, mais en fait, est-ce que l'école, c'est... On pourrait imaginer, on va voter une proposition de loi qui dit que l'école est obligatoire pour les garçons de 3 ans à 18 ans et qu'elle est obligatoire pour les jeunes filles de 3 ans à 12 ans.
Ça, c'est plutôt le régime afghan. Hein.
Voilà, c'est plutôt le régime afghan. Et je leur dis...
Encore, là, il n'y a pas d'école.
Alors, mais parce que, en fait, les jeunes filles, il faut qu'elles aillent plutôt aider maman à la maison, etc. Donc, je prends un truc bien sexiste. Et les enfants, ils me disent, mais non, mais vous ne pouvez pas faire ça. Je dis, mais attendez, mais pourquoi je ne peux pas? Je suis élue, vous m'avez élue. Et puis, à l'Assemblée nationale, j'ai réussi à convaincre tous les députés de voter ça. Donc, nous, on a voté. Et puis, les sénateurs aussi. Et donc, à l'unanimité, on est tous d'accord. On a voté cette loi qui prévoit donc l'école obligatoire, les garçons de 3 ans à 18 ans, les filles de 3 ans à 12 ans. Et ils me disent, mais non, vous ne pouvez pas. Je leur dis, mais si, on est élu, on fait ce qu'on veut, on est élu. Et là, les enfants, donc on est en CM1, CM2, ils vous disent, mais non, vous ne pouvez pas. Alors je dis, mais pourquoi? Et ils me disent, mais parce que c'est contraire au principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Et là, je leur dis, mais vous avez tout compris. Et leur dis, mais pourquoi ce principe? Comment ça marche? Et donc je leur explique la Constitution qui prévoit les libertés et les droits fondamentaux. Puis je leur raconte le Conseil constitutionnel qui est là pour garantir le respect de ces droits et libertés fondamentaux. Et je leur explique que le législateur, quand bien même nous serions élus par le peuple, quand bien même à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous voterions quelque chose qui contrevient aux libertés fondamentales du peuple français, eh bien nous ne pourrions pas le faire parce que le Conseil constitutionnel serait là pour marquer la limite. Et je crois que c'est fondamental de rappeler cela. La Constitution, c'est précieux, c'est vos droits et libertés. On s'en est tous souvenus, rappelez-vous, pendant le Covid, parce que on parlait de liberté de manifestation, de liberté de culte, de liberté d'aller et venir. Et tout cela, il a fallu le concilier avec les impératifs de santé publique. Et le Conseil d'État a beaucoup statué, le Conseil constitutionnel. Et c'est ça l'état de droit, c'est de faire en sorte qu'il y ait des pouvoirs, des contre-pouvoirs, et des textes, des valeurs, des principes qui nous transcendent. Et ils nous transcendent parce qu'ils viennent de notre histoire, ça part de la Déclaration des droits de l'homme, mais parce qu'aussi le peuple français, par son vote, quand il a adopté la Constitution notamment, a dit qu'il fallait que ces principes nous soient supérieurs. Et donc je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on entend certains discours d'hommes et de femmes politiques qui mettent toujours le peuple au-dessus de tout, au-dessus justement de ses valeurs et de ses droits fondamentaux, eh bien, ce n'est pas le peuple qu'ils mettent au-dessus. C'est 50,01% du peuple. C'est la majorité. Et la Constitution et l'état de droit, c'est aussi fait pour protéger les minorités.
Cette pédagogie très concrète, très active, vous avez eu l'occasion de la faire peut-être devant le ministre de l'Intérieur.
Je lui ai dit ce que je pensais.
Sur l'état de droit.
Je lui ai dit, et je l'ai dit publiquement. Mmh. Moi, en fait, pour le coup, moi, depuis que je fais de la politique, j'essaie d'être la plus sincère possible, d'être la plus vraie. Je pense que les Français en ont marre d'entendre des hommes et des femmes politiques qui pratiquent la langue de bois, et ils en ont marre d'entendre des hommes et des femmes politiques qui changent d'avis comme de chemise. Moi, je ne change pas d'avis comme de chemise, ou quand je change d'avis, je l'explique. J'explique pourquoi j'avais une position avant, et j'explique pourquoi j'ai changé d'avis. C'est le cas, par exemple, pour la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Mais autrement, j'essaie d'être très cohérente et constante. Je pense que c'est ça qu'on attend d'un homme et d'une femme politique, ça sécurise aussi. Et je pense qu'en ce moment, on a besoin d'être sécurisé.
Vous évoquez évidemment le climat à l'Assemblée nationale. Votre papa Alfred, vous dites qu'il a fait des QAG, les fameuses QAG, sa séquence hebdomadaire.
Il me prend en photo derrière la télé.
Et oui, mais c'est un climat qui est très tendu, hein, effectivement. Mais il y a un passage, page 205, avec l'évocation de votre relation amicale avec Caroline Fiat, qui a été votre vice-présidente LFI quand vous présidiez la commission de l'Assemblée nationale.
De 2022 à 2024.
Vice-présidente de l'Assemblée nationale.
Voilà.
Évidemment, c'est l'occasion aussi d'évoquer la fameuse réflexion de Jean-Luc Mélenchon à votre égard. Vous dites que vous avez consulté Robert Badinter, que vous admiriez beaucoup. C'est quelques mois avant son décès, parce qu'il est décédé le 9 février 2024. Et vous demandez à Robert Badinter qu'est-ce qu'il faut faire. Et il vous répond, ne bougez pas, vous aurez l'occasion de pointer ces propos qui nous font tant de mal. Vous êtes présidente de l'Assemblée nationale, c'est une grande gueule. Dites tout simplement qu'il aille au diable. Voilà. Et vous dites, dorénavant, il n'aura plus mon attention, seulement mon mépris. C'est pour moi l'occasion d'évoquer à la fois ce couple improbable que vous faites avec Gérard Larcher, mais surtout la marche du 12 décembre 2023, puisque vous consacrez des pages à cette séquence qui est très émouvante. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, qui était quand même très fort?
En fait, la montée de l'antisémitisme, vous voyez, on parlait des valeurs de notre pays, de notre histoire, elle doit tous nous préoccuper parce qu'elle est tellement à l'opposé de ce qu'est notre pays et ce qu'est le peuple français. Et je sais que le peuple français n'est pas antisémite. Pour autant, il y a une recrudescence des faits antisémites qui ne se tarit pas, et on a un certain nombre de nos compatriotes qui ont peur, qui sont inquiets. Et en fait, quand je dis ça ne se tarit pas, ça ne se tarit pas dans le sens où, en fait, j'ai encore reçu aujourd'hui une lettre antisémite à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est toujours très marquant. Et avec le président du Sénat, on était extrêmement préoccupés. Et on se voit régulièrement, on forme un couple improbable. Mais pour ceux qui nous connaissent, nous ne sommes, ça, le couple n'est absolument pas improbable parce que nous sommes tellement attachés à notre République, à notre démocratie, à l'état de droit, à nos valeurs. Et nous savons que dans le climat politique actuel, nous avons plus que jamais besoin d'institutions qui soient stables, qui se parlent et qui travaillent ensemble. Et c'est ce que nous faisons, nous ne nous forçons pas. Et c'est ce que nous faisons main dans la main depuis des années maintenant. Et vraiment, en tout cas, les Français nous disent à quel point ça les rassure de voir à la tête du Parlement ces deux personnes qui sont capables de s'entendre au-delà de leurs différences politiques, etc. Et vous voyez, ça, on a finalement devancé la majorité qui aujourd'hui est aux responsabilités, qui comporte une alliance de notre majorité initiale avec les Républicains. Et pour la marche contre l'antisémitisme et pour la République, avec Gérard, on s'est dit qu'il était de notre devoir d'agir. Lorsque vous êtes aux responsabilités, vous avez ce que vous avez à faire de façon quotidienne, dans la mission qui est la vôtre, et puis vous avez ce que finalement votre fonction exige de vous. Et nous nous sommes dit que nos fonctions respectives exigeaient de nous une parole et des actes forts. Et c'est comme cela qu'on a décidé d'organiser la marche. Et ce qui était très puissant pour nous deux, c'est que c'est une marche que nous avons organisée sans nos partis politiques. C'était une marche vraiment que nous avions souhaité apolitique, destinée à tous. Et c'était un appel aux Français. Nous n'avons pas fait d'appel aux partis. Nous avons vraiment fait un appel aux citoyens. Nous voulions une marche citoyenne. Et ce qui nous a émus par-dessus tout, c'est que nous avions demandé des choses très simples. Nous avions dit, nous ne voulons qu'une banderole pour la République contre l'antisémitisme. Nous ne voulons entendre qu'un hymne, la Marseillaise. Nous ne voulons voir qu'un drapeau, le drapeau français. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que nous avons été entendus, que les Français sont venus en masse, que ça a dépassé nos espérances parce qu'il y a eu des rassemblements dans toute la France, devant toutes les préfectures, et que nous n'avons entendu qu'un hymne et vu qu'un drapeau français. Et ça, je crois que c'était important. Et à ce moment-là, ça a fait chaud au cœur à beaucoup de nos compatriotes, qu'ils soient juifs ou pas, peu importe, que justement nous soyons capables ensemble de marcher pour la République et contre l'antisémitisme. Donc c'est un moment très fort d'une vie politique, et je le raconte dans mon livre. C'était la première fois que des présidents de chambre organisaient une manifestation. Donc j'ai encadré dans mon bureau la déclaration de manifestation. Et c'est la première fois qu'on achetait, j'ai acheté la banderole. Je me suis vraiment organisée en tant que manifestante. Et en fait, c'est le soir, quand je suis rentrée chez moi, j'ai allumé la télé et je vous ai vu. J'ai vu tous ces rassemblements partout. Et en fait, ça m'a fait pleurer. Et vous voyez, j'en parle et j'ai à nouveau les larmes aux yeux. Parce que quand vous faites de la politique, vous rendez compte que les Français vous entendent. Mais c'est d'une puissance folle. Et ça veut dire que votre message est juste. Et en fait, porter un message juste quand vous faites de la politique, ben c'est un peu le Graal.
C'est difficile d'enchaîner après cela, mais il faut évoquer un aspect important de votre livre, hein, c'est la séquence dissolution de l'Assemblée nationale, parce que vous êtes présidente de l'Assemblée nationale. Alors, il y avait, j'allais dire, une jurisprudence, si je puis dire. Philippe Séguin avait fait part à Jacques Chirac de son hostilité totale, ouais, à la dissolution, dit-on, hein, de 97. Hein, voilà. Donc, on va laisser les lecteurs prendre connaissance de ce récit dans les détails. C'est d'ailleurs un de vos derniers chapitres. Alors, j'ai noté 5 mots ou expressions. Sidération, effarement, nous sommes abasourdis, c'est un coup de massue. Et puis pour finir, il y a dans cette décision un paradoxe fou. Alors, vous assurez que l'Assemblée nationale élue en 2022 fonctionnait, que certes, l'article 49.3 a été utilisé, et vous le défendez d'ailleurs très précisément, mais qu'entre 2022 et 2024, 100 lois, dites-vous, ont été votées, dont 36 à l'unanimité. Alors, pourquoi est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron a choisi de dissoudre? Est-ce que parce que il a voulu faire comme les traders, les brokers, il a voulu prendre son risque? comme on dit.
Oui, comme on dit, écoutez, je ne sais pas. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir lui expliquer pourquoi je pensais que ça n'était pas une bonne idée.
En tête à tête.
En tête à tête.
Vous le prenez à part après.
J'exige en tête à tête.
Oui, vous exigez, pardon, madame la présidente, parce que c'est dans la Constitution.
C'est dans la Constitution.
Oui. Article 12, après consultation.
Voilà. Et donc, j'exige que cette consultation ait lieu, et elle a lieu. Et nous échangeons, et j'essaye de lui expliquer pourquoi ce n'est pas une bonne idée. Et ce qu'on pourrait faire de différent. Et malheureusement, je ne réussis pas à le convaincre. La décision était prise, elle était actée. Et je pense que rien n'aurait pu le faire changer d'avis. Et donc, voilà. Après, moi, je l'ai regretté parce que j'étais à la tête d'une Assemblée nationale qui fonctionnait, parce que quand je parle des textes qui étaient votés, un certain nombre de textes très importants ont été votés à des très larges majorités. On pense à la loi de programmation sur la justice, à la loi de programmation militaire, des lois sur le développement des énergies renouvelables, sur le nucléaire, etc. Donc c'est pas des petits textes. Et donc on avait réussi à trouver des majorités. Trouver des majorités, c'est difficile. C'est toujours plus difficile que quand on a une majorité absolue. Mais pour autant, on y arrivait. Je crois que le président pensait que la gauche ne se remettrait pas ensemble et donc il y aurait une large division et que nous pourrions bénéficier de cette division. Ça n'a pas été le cas. Tout le monde a pu voir que le nouveau Front populaire s'est créé en quelques heures et que la gauche a pu présenter des candidatures unies dans toutes les circonscriptions. Donc j'ai trouvé que c'était dommage, qu'il y avait d'autres chemins qui auraient pu être exploités, notamment un chemin d'alliance avec les Républicains, donc chemin que nous avons emprunté ultérieurement. Mais voilà, après, moi, je suis juriste, je défends l'état de droit. Et dans l'état de droit, il y a une constitution qui dit que le président de la République a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça fait partie des équilibres des pouvoirs. L'Assemblée nationale, de notre côté, a comme pouvoir de pouvoir renverser le gouvernement. Elle s'en est pas privée en décembre dernier. Ce sont les équilibres institutionnels qui sont plutôt bien faits. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle moi je ne suis pas du tout favorable à une sixième République qui bouleverserait tous nos équilibres. À nouveau, nos équilibres sont plutôt les bons et sont très protecteurs des Français par nos différents mécanismes institutionnels. Donc même si je suis pour des modifications, renforcement des pouvoirs du Parlement, etc., je ne suis pas sûr pour un bouleversement complet. Et donc le président a une prérogative constitutionnelle de dissoudre l'Assemblée nationale. Dont acte.
Comme votre livre est vraiment très sincère, il y a le chapitre que l'on connaît, parce que ça a été assez évoqué, évidemment, sur votre cancer, ça s'appelle cancer grade 2. Hein, c'est le diagnostic qui vous est posé. Et vous dites, en politique comme ailleurs, ceux qui sont confrontés à la maladie ne devraient pas avoir à s'excuser. Et puis dans la même page, j'ai eu besoin que la femme que je suis et la femme politique ne fassent qu'une. Et puis pour finir, si j'ai pu, en parlant de ma maladie, encourager quelques femmes à prendre rendez-vous, alors cela aura été utile. On retrouve le mot être utile hein, de votre chapitre. Mais est-ce que... d'une certaine façon, est-ce qu'une personnalité publique peut avoir une vie privée, selon vous, aujourd'hui?
Oui, je crois. Et on est dans un pays où on respecte beaucoup la vie privée
des
personnalités politiques, quand même. Si.
Oui.
Moi, je suis pas. J'ai jamais, depuis que je fais de la politique, eu d'ennui à cet égard. Les Français sont très respectueux. Et c'est marrant d'ailleurs parce que je raconte souvent cette anecdote avec ma fille. L'autre jour, j'étais dans un magasin de produits de beauté et elle était avec moi. Elle a 19 ans et j'entendais des gens.
La dernière.
C'est ma quatrième. Et j'entendais des gens qui bruissaient. Oh, t'as vu, c'est la présidente de l'Assemblée nationale. Et mais ils restaient à distance. Et puis elle est partie à l'autre bout du magasin. Donc je me suis retrouvée toute seule. Et là. Les gens, ils sont venus me voir. Ah, oh, bonjour, madame la présidente. Très gentil, mais ils sont venus me voir. Et puis, quand elle est revenue, eh bien, en fait, j'ai recréé comme une sorte de bulle, en fait, où les gens respectaient cette intimité familiale. Ils voyaient que si je suis toute seule, ils viennent volontiers discuter avec moi. Si je suis avec mon mari, un de mes enfants, eh ben, ils respectent le cercle familial. Donc, je trouve au contraire qu'on peut avoir une vie privée. Après, sur le cancer, je ne l'ai pas dit tout de suite parce que, effectivement, d'abord, il faut mener le combat. Et ce combat, ça demande de s'y consacrer à fond. Et après,
pardon, si je me souviens bien, c'est au printemps 22, c'est ça?
Oui,
donc
en même temps que les législatives, oui, que je deviens ministre, que je fais la bataille du perchoir, donc ça fait beaucoup de combats à mener en même temps. Mais en fait, surtout, c'est qu'après, je me sentais fausse quand j'allais dans des centres de traitement sur le cancer, quand je rencontrais des femmes qui me livraient leur combat. En fait, je me disais, mais il y a un décalage entre ce que j'ai vécu moi et cette femme politique qui rencontre des femmes qui sont atteintes de cancer, etc. Et je me suis dit, je vais le dire. Et puis après, je me suis posé la question, comment je vais le dire? Parce que j'avais pas envie d'un moment où je voulais pas qu'on me plaigne. Je voulais pas le dire pour me. Voilà, je voulais pas entendre, oh là là, la pauvre, etc. Vous aurez compris que c'est pas trop mon caractère. Et je voulais que ça soit utile. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais le début janvier, et j'ai choisi un petit média sur les réseaux sociaux, donc j'ai pas été me faire un 20h ou je ne sais quoi pour faire ma pub dessus, ça m'intéresse, c'était pas ça l'objectif. Et je me suis dit, début janvier, ça va, dans les bonnes résolutions de l'année, allez vous faire dépister. Et c'est vrai que ça a marché parce que j'ai plein de femmes qui m'ont écrit en me disant « Vous avez raison, j'avais peur, mais je vais y aller. » J'ai des ministres qui sont venus me voir et qui me disent « Oh là là, à cause de toi, je vais aller me faire dépister. » Donc en fait, je suis contente parce que ça a mis un petit peu l'accent sur l'importance du dépistage, mais il faut le faire beaucoup plus. Donc il faut en parler, il faut y aller, il faut créer les conditions de l'accès aux soins, évidemment. Mais aujourd'hui, sur le dépistage national qui est organisé pour le cancer du sein, il n'y a que 50% des femmes qui en bénéficient. Donc c'est beaucoup trop peu et il faut absolument continuer à en parler et puis dédiaboliser la maladie. On a un cancer, et ben on peut, pas toujours, mais quand on peut travailler, on peut continuer à avoir une vie sociale, on peut continuer à avoir des engagements, on n'est pas réduit à notre cancer et j'ai envie de vous dire, quand on est malade, eh ben, on a besoin d'avoir une activité sociale. Ça aide à guérir, ça aide. Donc, en fait, il faut créer une société qui soit beaucoup plus inclusive, beaucoup plus respectueuse. Et puis, vous voyez, je ne suis pas que mon cancer. J'ai eu un cancer il y a 3 ans. Aujourd'hui, tout va bien et on guérit du cancer. C'est plus quelque chose de désespéré. Il faut aussi... on guérit évidemment pas de tous les cancers. Il faut bien évidemment toujours, mesurer les propos que l'on a. Mais en tout cas, il faut donner, je crois, un autre message sur ces maladies plutôt qu'un message simplement stigmatisant et excluant.
Je vous ai entendu chez Nicolas Demorand et Léa Salamé leur dire, vous avez lu mon livre, c'est pas un livre programme, il n'y a pas un grand projet pour la France. Non. Alors, c'est vrai, mais en même temps... Non, c'est vrai, mais il y a plein de propositions. Il y a tout un chapitre avec plein d'idées. Mais c'est, vous allez dire, c'est des petits trucs. C'est pas si des petits trucs que ça. Par exemple, vous dites le premier lundi du mois d'octobre, les 567 222 élus, j'ai bien pris précis, les élus nationaux et territoriaux iraient chacun ou par petits groupes dans une classe du pays. Vous voudriez une journée de la participation citoyenne comme la fête de la musique. Vous souhaitez généraliser, il n'y en a pas suffisamment, les conseils municipaux, départementaux et régionaux de jeunes. Le passeport du civisme, vous êtes pour la proportionnelle, etc. Bon, donc en fait, il y a plein d'idées.
Vous aurez noté que c'est des idées qui sont tout le temps sur le même thème, la citoyenneté,
et le concret,
l'engagement. Le concret. On est sur cette logique-là justement, notre démocratie est fragile. Prenons-en soin et donc faisons en sorte que chacun puisse se la réapproprier.
Va falloir qu'on termine parce qu'on vous écouterait pendant des heures, mais il y a un sujet que je veux quand même absolument aborder. Parce qu'il a été essentiel pour vous, c'est le 4 mars 2024, vous présidez le congrès à Versailles. Okay. Je rappelle que c'est la réunion, dans une partie du château de Versailles, du Sénat et de l'Assemblée nationale, mais c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui préside le congrès, et c'est pour ce qu'on appelle l'inscription de la liberté garantie de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Nancy Pelosi vous dit, à l'occasion d'un G7 parlementaire à Washington, en août 22, protéger le droit à l'avortement, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le texte a été adopté avec 780 voix pour, 72 contre et 50 abstentions. Et vous dites, c'est une victoire parlementaire, c'est une victoire pour les femmes. Il y a un passage émouvant, vous dites, j'embrasse Mathilde Panot parce que je sais ce qu'on lui doit, je sais ce que nous lui devons dans cette bataille. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça faisait 49 ans que la loi Veil avait été promulguée, le 17 janvier 1975. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là?
C'est un moment absolument incroyable, parce que déjà, c'est extrêmement solennel. Un congrès qui modifie la Constitution, justement, ce bien si précieux, c'est quelque chose de très impressionnant. Et il y avait, compte tenu du sujet, un enjeu majeur pour les femmes, pour les associations, pour tous les engagés. Et on voit en ce moment, dans ce moment terrible de régression des droits des femmes à l'étranger, qu'il faut protéger les droits et libertés des femmes et des hommes, évidemment, et que lorsque nous pouvons le faire, il ne faut pas s'en priver. Parce que certains disaient, oh là là, ça n'est pas utile parce que ce droit n'est pas menacé aujourd'hui. Mais justement, le jour où il sera menacé, ce sera trop tard pour le protéger. On n'aura plus, puisque au Congrès, il faut une majorité des 3/5. C'est difficile d'atteindre cette majorité. Donc il fallait le protéger quand il est possible de le faire. Je pense que c'est un moment important. C'est important pour nos filles, puisqu'on leur garantit cet accès dans notre pays à l'avenir. Et c'est important aussi sur la parole que la France porte dans le monde. Nous avons, vous voyez, on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer. Nous sommes la patrie des droits de l'homme. Nous sommes la patrie qui a inventé la séparation des pouvoirs, qui a dit des choses au monde. Et nous devons continuer à le faire. Et j'ai rencontré des militantes polonaises, notamment, qui se battaient pour le droit à l'avortement et qui ont besoin que l'on se batte aussi, qu'on leur montre la voie, qu'elles ne soient pas seules. Elles ont besoin de nous. Et donc, avec ce moment au Congrès, c'est aussi ce message que nous avons envoyé au monde. Donc, c'était un moment très important. Après, vous avez... c'est un moment qui est très solennel. Donc, il ne faut, faut pas se planter. Il faut... donc, vous rédigez un petit discours. Faut bien le gérer du début à la fin pour que ça soit quelque chose de réussi. Et je crois que c'était quelque chose de réussi. On a réussi quelque chose et qui a dépassé tous les clivages partisans, générationnels. Et donc, c'était un très beau moment de concorde nationale et c'était un très beau moment parlementaire. Comme quoi, c'est possible d'avoir ces moments-là.
La petite Yaël qui montait sur le tabouret de son grand-père, Kalman, qui lui faisait des modèles et qui l'essayait. Est-ce qu'elle croit et comment pense-t-elle que la France peut être recousue avec quel fil? C'est la dernière question.
Dernière question, mais c'est difficile de répondre. Moi, je crois que la France a besoin, tout simplement, et les Français, la France a besoin de croire en elle. En fait, je suis effrayée par le pessimisme que nous pouvons avoir, non pas sur notre sort personnel, lorsque l'on regarde les études, on est plutôt optimiste pour nous, pour notre famille, mais on est très pessimiste sur l'avenir collectif. Et c'est dommage parce que nous sommes un pays qui a beaucoup d'atouts. Cette promesse républicaine dont je parlais tout à l'heure, elle a vraiment du sens et elle porte... on est un pays où on peut devenir médecin, avocat, juge, ingénieur, sans avoir une carte bleue et un compte en banque bien rempli, contrairement à d'autres pays. On est un pays qui est capable d'envoyer des satellites dans l'espace avec des fusées. On est un pays qui est capable d'inventer le Rafale et en même temps d'avoir des énergies propres. On est un pays qui est capable de beaucoup. Et je crois qu'on doute trop. Et donc, on aurait besoin d'avoir un peu plus de cohésion et puis de croire en nous, de croire en notre capacité d'agir. Parce que lorsque l'on se met ensemble, Et c'est ce que vous voyez, c'est ça l'engagement associatif. Lorsqu'on se met ensemble pour une cause qui nous dépasse, eh bien, on peut faire des grandes choses. Et donc, c'est ça que je pense pour la France qui serait vraiment formidable. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de trop utiliser le fil et l'aiguille. Tout est là, en fait, puisque je pense que voilà, c'est surtout une affaire de conviction.
Puis ensemble, c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman, non ?
Tout à fait, voilà. Avec des chœurs. Alors là, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais...
Merci beaucoup, Yaël Braun-Pivet. Merci.
Merci à vous. Merci beaucoup.